RFI, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
Marie Casadebé.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal En français facile. J'ai le plaisir de le présenter avec Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité, les explications de Narendra Modi sur la fin de l'autonomie du Cachemire. Le Premier ministre indien promet aux habitants de la région un meilleur avenir et la fin du terrorisme.
Le meurtre d'un jeune soldat israélien en Cisjordanie occupé. Son corps a été retrouvé près d'une colonie juive. Vive émotion et promesse de fermeté en Israël.
Face au scandale, le président du Parlement polonais quitte ses fonctions. Il est accusé d'avoir profité des biens de l'État.
Les journaux.
Le journal.
En français facile.
En français facile.
4 jours après la fin de l'autonomie de la région du Cachemire, Narendra Modi a expliqué pourquoi il avait pris cette décision.
Le Premier ministre indien a tenu un discours à la télévision. Il a expliqué qu'il avait pris cette décision pour libérer la région du terrorisme et du séparatisme. La volonté de certains de faire du Cachemire une région indépendante. Narendra Modi a aussi promis un bel avenir aux habitants. Écoutez l'analyse du chercheur Jean-Luc Racine, spécialiste de l'Inde.
Il faut d'abord noter la forme. L'opposition avait demandé à ce que le Premier ministre explique sa décision devant les parlementaires. Il a choisi, comme souvent, puisque Narendra Modi est quelqu'un qui ne donne pas de conférence de presse non plus, de s'adresser directement à la nation. Le discours, en fait, cherche à rassurer les Cachemiris. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans le discours. C'est beaucoup de promesses qui sont faites aux Cachemiris en disant maintenant que ce fameux article 370 n'existe plus, vous allez pouvoir bénéficier des mêmes droits que tous les Indiens, vous allez pouvoir en tirer les fruits économiques. L'argumentaire essentiel de Narendra Modi a été de dire avec ce statut qui vous met à parité avec le reste du pays, tout va aller beaucoup mieux en matière de gouvernance, en matière d'investissement économique.
Des propos recueillis par Nicolas Falaise.
Au Kirghizistan, l'ex-président Almazbek Atambayev a fini par se rendre aujourd'hui aux forces de sécurité après 2 jours d'intervention autour de sa maison près de Bishkek, la capitale.
Les forces spéciales ont affronté des centaines de partisans de l'ex-chef de l'État, des personnes qui étaient venues le soutenir et le protéger. Un militaire a été tué. Almazbek Atambayev est accusé de corruption. Il aurait profité de son statut de président pour obtenir des terres.
La Syrie réagit à un accord trouvé hier entre la Turquie et les États-Unis.
Cet accord prévoit la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, entre la frontière turque et les combattants kurdes syriens des YPG. Mais les autorités syriennes sont opposées à ce projet. Elles estiment qu'il s'agit d'une agression à sa souveraineté, c'est-à-dire que la Turquie et les États-Unis ont décidé sans l'accord de Damas.
Benjamin Netanyahou parle d'un acte terroriste après la découverte du corps d'un jeune soldat israélien en Cisjordanie occupée.
Le jeune homme de 19 ans a été retrouvé mort près de la colonie juive de Migdal Oz, entre Bethléem et Hébron. Le jeune homme de 19 ans a été poignardé. Le Premier ministre israélien a promis une réponse ferme. Les précisions de Marine Vlaovic.
Benjamin Netanyahou s'est rendu à Migdal Oz en promettant que les coupables seront vite capturés. C'est à la porte de cette colonie au sud de la Cisjordanie occupée que le corps de Dvir Zorek, 19 ans, a été retrouvé ce matin. Selon l'armée, lors de sa disparition, le jeune soldat ne portait ni uniforme ni arme. Le jeune homme, originaire d'une colonie située près de Ramallah, faisait en fait partie d'un programme spécial qui allie études religieuses et services militaires. Les médias israéliens évoquent une tentative de kidnapping qui a dérapé. Impossible à ce stade de déterminer s'il s'agit de l'action d'une cellule ou d'un acte isolé selon les forces de sécurité qui mènent une véritable chasse à l'homme dans les villages palestiniens environnants. L'attaque a été saluée par le djihad islamique et le Hamas, mais n'a pas été revendiquée en bonne et due forme par ces factions palestiniennes. Marine Vlaovic, Migdal Oz, RFI.
Aux États-Unis, la mère du tueur d'El Paso aurait appelé la police pour dire que son fils avait un fusil d'assaut. une arme de guerre.
Les avocats de cette femme ont raconté à la chaîne américaine CNN que cet appel avait eu lieu quelques semaines avant la fusillade qui a fait 22 morts. Elle s'inquiétait que son fils de 21 ans possède une arme, mais le policier au téléphone a répondu que cela n'était pas illégal.
Le journal en français facile.
Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a rendu un rapport aujourd'hui sur la question des sols de la planète.
Les sols sont très abîmés par les activités de l'homme, mais aussi par le réchauffement du climat. Il faut donc trouver des solutions pour que l'on puisse continuer à nourrir des milliards d'êtres humains. Le GIEC conseille donc de faire évoluer notre alimentation, faire évoluer ce que l'on mange, en baissant par exemple la quantité de viande. La viande demande beaucoup d'énergie à produire.
Une explosion sur un site militaire dans le grand nord de la Russie a provoqué un pic de radioactivité, une énergie dangereuse pour l'homme.
Cette explosion a eu lieu sur une base de lancement de missiles. Elle a fait 2 morts. Les autorités se veulent rassurantes sur les conséquences de cet accident pour la santé. À Moscou, Daniel Valo.
L'explosion s'est déroulée sur la base militaire de Nyonovska dans la région d'Arkhangelsk, une base d'essais balistiques qui existe depuis les années 50. Selon les informations données par le ministère russe de la Défense, l'accident s'est déroulé durant un test, entraînant la mort de 2 personnes et faisant au moins 6 blessés. Le communiqué diffusé par le ministère de la Défense assure qu'il n'y a pas eu de contamination radioactive à la suite de cet accident. Pourtant, la ville de Sieverodvinsk, située à proximité de la base, a relevé à la mi-journée une hausse de la radioactivité. Ambiante, une hausse limitée et qui est très vite retombée, ont aussitôt précisé les autorités locales. Selon l'agence russe de protection des consommateurs, il n'y a pas eu de pollution présentant des risques pour la santé publique. Cet incident intervient après 2 incendies impressionnants qui ont touché depuis le début du mois d'août des dépôts de munitions en Russie. Dans la région de Krasnoïarsk en Sibérie, les explosions provoquées par l'incendie ont entraîné l'évacuation dans l'urgence de plusieurs milliers de personnes. Daniel Valo, Moscou, RFI.
Au Burkina Faso, les avocats de Gilbert Diendéré demandent qu'il soit libéré et qu'il ne soit plus poursuivi par la justice.
Ce général est accusé d'avoir organisé la tentative de coup d'État de septembre 2015. Son procès a lieu en ce moment. Ses avocats pensent que le tribunal n'a pas apporté de preuves de sa culpabilité. Le procureur a lui demandé que Gilbert Diendéré soit condamné à la prison à vie.
En Italie, le ministre de l'Intérieur pense que le pays doit organiser des élections législatives anticipées, c'est-à-dire plus tôt que prévu.
Matteo Salvini explique que l'alliance entre son parti, la Ligue et le mouvement 5 étoiles ne fonctionne plus et n'a pas assez de soutien au Parlement. Les deux partis ne sont pas en effet d'accord sur de nombreux sujets, mais pour organiser de nouvelles élections, il faut que le Parlement le demande ou bien que le chef du gouvernement démissionne.
En Pologne, le président du Parlement démissionne justement, il quitte ses fonctions.
Marek Kuchinski est accusé d'avoir utilisé un avion du gouvernement pour ses besoins personnels. À 2 mois des élections législatives, cette affaire n'était pas une bonne chose pour son parti, le PiS. À Varsovie, les précisions de Damien Simonard.
L'air grave au QG du parti PiS, à côté de son leader Jarosław Kaczynski, Marek Kuchinski annonce qu'il présentera sa démission demain. Un communiqué bref dans lequel le futur ex-président de la Diète répète qu'il n'a pas enfreint la loi. Il lui est pourtant reproché d'avoir utilisé des avions et hélicoptères gouvernementaux plus d'une centaine de fois entre mars 2018 et mai 2019. La plupart du temps, il se rendait vers sa région d'origine dans le sud-est du pays, accompagné par des membres de sa famille et sous le statut haute priorité. Dans les rangs de la majorité, tout le monde fait bloc pour défendre l'honneur de l'intéressé. Pour Jarosław Kaczynski, je cite, « La décision du président de la Diète témoigne de son attitude conforme au mot d'ordre du parti, écouter les Polonais et servir la Pologne ». Fin de citation. Une décision avant tout dictée par le calendrier électoral. Les Polonais se rendent aux urnes le 13 octobre pour élire le nouveau Parlement avant l'élection présidentielle au printemps prochain. L'opposition exploite quant à elle le filon et réclame désormais les listes des passagers et les informations de vol concernant le président du Sénat. Damien Simonard, Varsovie, RFI.
C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci Sébastien Duhamel.
Merci à vous Marie.
Si vous voulez le réécouter, rendez-vous sur notre site savoir.rfi.fr. Il est bientôt 22h10 à Paris. Le prochain journal, c'est en moins d'1 heure sur la Radio du Monde. Très bonne soirée à tous.